C'est une différence majeure qui sépare le XXIe siècle des deux siècles qui l'ont précédé. Le XIXe siècle porté par la Révolution française et l'idée de progrès qui domine tout le XIXe siècle, puis le XXe siècle porté par l'utopie communiste. Eh bien, le XXIe siècle naît sans utopie, c'est-à-dire une époque qui n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. Nous vivons dans un monde qu'on a qualifié de présentiste, où il n'y a plus que le présent et où l'horizon d'attente est brouillé, a disparu. On avait cette illusion, a posteriori, rétrospectivement, il faut bien la reconnaître comme telle, on avait ce sentiment que on marchait dans le sens de l'histoire. Moi, je ne suis pas de ceux qui, comme Emmanuel Macron, pensent que le clivage droite-gauche est périmé, obsolète, appartient à un siècle révolu. Nous serions entrés dans une ère post-idéologique dans laquelle droite et gauche n'auraient plus aucune signification. Être de gauche, pour moi, signifie garder l'idée de liberté et d'égalité comme des boussoles. Et aujourd'hui, bon, signifie lutter contre un ordre international qui est de plus en plus inégalitaire et qui est en train aussi de remettre en cause ou de menacer des acquis démocratiques et libéraux sur lesquels nous avons pu nous appuyer jusqu'à présent.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Depuis plus d'un an, la France est en ébullition. Alors que les partis de gauche traditionnels demeurent inaudibles et alors que les adeptes de la Révolution peinent à sortir de l'anecdotique, le peuple, car c'est bien ainsi qu'il faut l'appeler, est dans la rue. Gilets jaunes, lassés des injustices et des inégalités devenues insupportables face à l'avidité satisfaite du 1% de super-riches, enseignants et hospitaliers alertant sur l'état d'urgence de leur secteur. Français lambda, paniqués devant une réforme des retraites qui s'avère bien moins juste et universelle qu'annoncée. Et comme le soulignait Enzo Traverso, spécialiste de l'histoire politique du XXe siècle, c'est sans doute l'absence, sinon d'utopie, du moins d'avenir meilleur, qui rend ces révoltes si désespérées. Il y a un an, à la veille de la première manifestation des Gilets jaunes, le sociologue François Dubay publiait au Seuil un fort intéressant petit livre dans lequel il recensait et expliquait, études fouillées à l'appui, la montée irrépressible de ce qu'il nommait, empruntant la formule à Spinoza, les passions tristes des Français. Une expression que la Macronie, son chef le premier, reprit vite à son compte ad nauseam. Animé donc de passions tristes, jalousie, aigreur, envie, voire racisme, xénophobie ou antisémitisme, ces manifestants des ronds-points et des week-ends qui osent gripper la belle machine de la Start-up Nation, tout comme ces syndicats refusant la perte de droits acquis, appelés privilèges, par un pouvoir pressé de supprimer les vestiges du vieux monde pour nous faire entrer dans la modernité du chacun pour soi. Alors, passion triste vraiment ou refus justifié de ce nouveau monde-là ? Bonsoir François Dubay.
Bonsoir.
On va revenir sur un livre sur lequel il y a eu énormément de débats, d'entretiens que vous avez donnés sur les radios, les télévisions. Et il est intéressant, plus d'un an après, peut-être de faire le point. Ce livre était publié exactement à la veille du démarrage du mouvement des Gilets jaunes. Depuis, le mouvement a duré un an. Puis, maintenant, on est dans le mouvement contre la réforme des retraites. Est-ce que vous avez évolué sur le constat que vous faisiez au moment de la publication de ces passions tristes ?
Non, j'ai pas évolué parce que la position que je tenais n'était pas de dire que le monde était juste et que toutes ces colères, ces révoltes, ces indignations, c'est tout ce qu'on voit et tout ce que j'avais vu déjà un petit peu avant, était injustifiée. Je veux dire, le monde va pas bien, le monde est injuste, les inégalités se creusent surtout par le très très sommet et surtout par le bas, mais au centre, la France reste un pays à peu près stable. Donc moi je suis un homme de gauche, je suis pour
passion triste s'exprime. C'est voilà. Péjoratif, mais, passion triste.
Oui, je dis passion triste, alors je ne suis pas l'auteur du mot, enfin je l'ai repris à un autre, bien plus célèbre que moi, et d'autres plus célèbres que moi le reprennent à leur compte. Ce que je voulais dire, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire que nous avons eu, pendant une très longue période au fond, des inégalités sociales, des injustices, des colères, des révoltes, qui trouvaient une forme d'expression sociale et politique relativement stabilisée, et comme le disait Enzo Traverso, qui est d'ailleurs un homme plutôt de la nostalgie, du monde perdu, finissait par se structurer, par prendre une forme, et une forme collective. Moi, je me souviens, quand j'interrogeais les gens, ils disaient « nous ». Ils disaient « les inégalités sont une injustice collective, elles m'affectent collectivement, mais moi, en tant qu'individu, je ne me sens pas humilié, blessé du matin au soir. Ouais. » Et je me dis, et je me suis rendu compte qu'au bout de j'irai 30 ans après, au fond, d'une certaine manière, et partout, c'est pas simplement une affaire française, les inégalités, le système des inégalités a d'une certaine manière explosé. Il a explosé, c'est-à-dire que les gens vous disent à très juste titre, je suis inégal en tant que, alors en tant que cadre ça va, en tant que femme ça va pas, en tant que vivant à la campagne c'est bien du point de vue écologique, mais du point de vue des transports ça va pas. J'ai monté dans le système scolaire, mais ça a pas répondu dans le système social. Je m'intègre dans la société française, mais je reste discriminé. Et donc les inégalités qui étaient enchâssées dans un système de classe, d'une certaine façon, qui était même un système assez rigide, assez conservateur. Enfin, je veux dire, le Parti communiste n'était pas si drôle que ça. Il y avait l'idée du destin de classe. Chacun devait rester à sa place, très très largement. Ce système-là a, de mon point de vue, volé en éclats. Et je prendrai d'ailleurs un indicateur extrêmement simple. Il y a 30 ans, le mot discrimination n'apparaît quasiment pas dans notre vocabulaire. Aujourd'hui, toutes les inégalités sont vécues comme des discriminations. Les avocats disent « je suis méprisé », les ouvriers disent « je suis méprisé », les gilets jaunes sont méprisés, les étudiants sont méprisés, les universitaires sont méprisés, les journalistes, évidemment, sont méprisés. Ça veut dire des choses profondes. Ça veut dire que, d'une certaine façon, l'expérience des inégalités est devenue une sorte d'expérience individuelle. Et donc, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est que nous avons des colères individuelles qui sont de plus en plus individuelles. J'étais très frappé, c'est pour ça que je renonce pas trop à mon analyse. Les gilets jaunes sont un peu venus à mon secours. Quand on les interviewait, ils parlaient d'eux, de moi. Moi, en tant que femme, divorcée, n'ayant pas de voiture, etc. etc. Donc, c'est très individualisé et au fond, toutes ces colères ont un mal fou à s'agréger. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une sorte de coprésence des colères, de coprésence des indignations et des rages, mais certainement pas de convergence des luttes, pour parler le vieux langage de ma jeunesse, parce que, au fond, les inégalités auxquelles nous sommes le plus sensibles sont les petites inégalités, contrairement à ce qu'on croit. Je veux dire, on est tous très hostiles à Bernard Arnault, qui est trop riche. Mais dans la vie réelle, c'est plutôt la taille de la voiture du voisin, l'établissement scolaire que fréquentent ses enfants, la différence entre la ville et sa périphérie qui crée des tensions très très fortes.
Alors, est-ce que justement le mot que vous avez prononcé à plusieurs reprises, François Dubet, le mot principal, c'est justement cette notion de mépris. Les gens se révoltent contre une sensation d'être méprisé par un pouvoir qui a cessé de parler collectif et qui démolit pas mal le collectif représenté par les services publics. Vous avez parlé des gilets jaunes qui vous en donnaient raison à plein de sujets, sur plein de sujets. On va les écouter parler justement de ce qu'ils ont ressenti de cette politique, pas seulement celle d'Emmanuel Macron, mais même peut-être depuis celle de François Hollande et de Sarkozy. On va les écouter.
La première des violences que les gilets jaunes ont subies, c'est la violence du mépris.
On nous traite de personnes qui ne travaillaient pas, de gueux, d'alcooliques. Enfin, on a eu toutes les étiquettes de fascistes, de racistes, d'antisémites. Enfin, oui, je prends ça pour une violence.
Bah, on est des prolos, on est descendants, on est des gens de rien. On n'est pas assez cultivés, on n'est pas assez éduqués pour avoir cette pensée-là. On ne peut pas réfléchir par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il nous faut nos merveilleux représentants. Mais par contre, des lobbyistes, qui viennent prêcher pour leur paroisse, eux, par contre, sont suffisamment éduqués, sont suffisamment éveillés pour venir faire des propositions de loi qu'ils transmettent aux députés et que les députés ne changent pas une virgule, ni un point, ni un tréma et qu'ils balancent comme ça directement à l'Assemblée nationale.
Moi, j'avais une grande idée pour moi du président, c'est-à-dire qu'il représente tout un peuple. Et pour moi, c'était quelqu'un qui aime son peuple, il l'apprend avec ses qualités et ses défauts, mais il est là pour le défendre, son peuple. Comment il peut parler comme ça d'un peuple qu'il est censé représenter? On ne peut pas se contenter d'obliger l'être humain. Alors, travaille, paye tes factures et c'est bon, ta vie, elle est faite. Non, ça ne s'arrête pas à ça. Un être humain, c'est bien plus complexe que ça. On a besoin de relations sociales, on a besoin de sortir, on a besoin de rêver, on a besoin de beauté, oui, de bonheur, d'amour. Et quand on est occupé 24 sur 24 dans des préoccupations d'intendance et de finances, on ne peut plus fonctionner, ça vous bouffe de l'intérieur, ça vous détruit. C'est comme quand on dit, oui, quand on veut, on peut. Alors j'ai eu longtemps ce discours, hein. Mais en fait non, il y a des gens qui n'ont pas le je peux. Je veux, mais je peux pas, j'y arrive pas, c'est pas possible.
François Dubet, il y a beaucoup de choses dans ces quelques paroles prises au milieu de milliers et milliers d'autres, mais qui insistent sur des points différents, mais qui concourent à ce sentiment de révolte contre l'injustice. D'abord, un discours politique qui a cessé d'employer le collectif et l'élan collectif pour catégoriser une population en femmes veuves, divorcées, agriculteurs, bon, chacun dans sa petite case. Et ensuite, ce discours politique récent sur les premiers de cordée, tout le monde doit être entrepreneur, tout le monde est responsable de son destin, et il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Or, les gens savent bien que maintenant, on peut travailler, et travailler dur, et beaucoup, et rester dans la catégorie des travailleurs pauvres. Et donc, est-ce que ce n'est pas justement aussi une responsabilité du management politique d'un peuple ?
Je crois que c'est vrai, mais ce qu'on voit en France, on l'observe sous d'autres formes dans tous les pays, donc il n'y a pas que le style Macron. Je veux dire, genre, je ne suis pas macroniste, mais il n'y a pas que le style Macron. L'Italie dans un état épouvantable, l'Angleterre, en Angleterre, gilet jaune, ça se dit Brexit. Enfin, aux États-Unis, Trump va être réélu. Enfin, les pays les plus vertueux, les pays sociaux-démocrates ont des extrêmes droites qui frôlent les 30%. Enfin, bon, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fin d'un système de représentation sociale et politique et d'un type de structuration de la société. Alors je vais rebondir sur les mots qu'utilisent ces gens. D'abord, il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'idée que on a un peu intériorisé le fait que l'on est responsable de ce qui nous arrive. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'école. On est dans un système aujourd'hui dans lequel vous entrez et on vous charge de construire vous-même votre parcours. Au fond, vous avez l'égalité des chances. Elle n'est pas réelle, mais elle est formellement mise en place. Et si j'échoue, si je réussis pas, au fond, j'en suis responsable. Ce qui fait d'ailleurs que vous avez à la fois un sentiment d'être écrasé par votre responsabilité, qui produit beaucoup de ressentiments, c'est la faute aux autres, etc. Et je suis quand même peut-être un peu moins optimiste que vous, parce que ce sentiment de mépris, il est profond, il relève de cette individualisation des inégalités. Au fond, plus on se sent égal, plus on a droit au respect. Mais en même temps, c'est un sentiment qui circule. Quand vous prenez les enquêtes sur la manière dont les gens jugent aujourd'hui les chômeurs, les immigrés, les plus pauvres, le mépris, ça suppose que vous ne soyez pas méprisé par ceux qui sont au-dessus, mais vous pouvez avoir une tendance subtile pour mépriser ceux qui sont en dessous, de manière à reconstruire votre dignité. C'est pour ça que je crois que cette espèce d'alchimie des sentiments, qui est alors en plus complètement accélérée par la toile, c'est des choses toutes bêtes, mais quand nous étions jeunes, pardonnez-moi de vous mettre
dans le baquet,
si vous n'étiez pas content, il fallait trouver une salle, il fallait trouver des militants, il fallait trouver une imprimerie, il fallait rentrer dans une machine à refroidir les colères. Tandis qu'aujourd'hui, votre colère, devient immédiatement un acte public. Chacun devient son propre mouvement social. Donc, il y a quelque chose qui se crée, qui, de mon point de vue, évidemment, ne signifie pas que ces colères soient illégitimes. Elles sont légitimes. La question que je me pose, c'est sont-elles capables de construire d'avoir une forme sociale, une forme politique? Et je constate que le mouvement des Gilets jaunes a été l'objet de récupérations, de tentatives de récupération quasi pornographiques dans certains cas, et que ça n'a pas marché. Parce que moi, j'ai rencontré des Gilets jaunes et que je trouvais plutôt sympathiques, personnellement. Mais dès qu'on parlait politique, ça devenait très étrange.
Mais peut-être parce qu'ils ont eu trop de douches froides et que des partis se sont prévalus d'être représentants du peuple et ne les ont pas représentés du tout.
Bien sûr, mais quand ils me disaient « je dénie à quiconque le droit de parler pour moi », bon, ben, si on n'est pas deux à pouvoir dire la même chose, ça sera difficile. On constate d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans le mouvement sur les retraites, les syndicats sont rentrés dans la danse, ce que je trouve très positif, mais la manière dont ils contrôlent leurs troupes est des plus incertaines. Je trouve qu'on est dans un moment particulièrement angoissant. Alors, beaucoup ont comparé avec les années 30, etc. Je ne crois pas que ça soit comparable parce qu'il n'y a pas une... La forme communiste s'est défaite, la forme fasciste, je ne crois pas que ce soit du fascisme ce qui se prépare, mais on est dans ce moment quand même extrêmement inquiétant, où d'ailleurs, vous le voyez autour de vous comme moi, vous avez des indignations multiples qui ne se transforment en aucune capacité pratique. Donc je m'indigne d'un côté, et de l'autre, je poursuis mes petites affaires. Et moi, j'étais très frappé, c'est un effet d'âge, quand je le fais remarquer à des gens plus jeunes que moi, ils me disaient « alors ?» Je reste surpris. Je veux dire, le fait de m'indigner m'oblige moralement, généralement. Mais là, on a le sentiment qu'on est dans un moment très, 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 très étrange. Après tout, un historien vous dirait que la France des années 1890 ressemblait un peu à ça. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters above you have grown and accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you'd better stop swimming or you'll sink like a stone. For the times, they're changing. Writers and critics who prophesy with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who it'll be naming. And don't criticize
your sons and your daughters are beyond your command. The old road is rapidly fading. Please get out of the way now. If you can't, lend a hand. All the times they are changing. They're changing.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Il existe un déclassement social généralisé, systémique. À l'instant, vous avez parlé d'une situation de paupérisation de l'intégralité du système. C'est effectivement ce à quoi nous assistons récemment. Et il existe aujourd'hui une déprise progressive des classes moyennes salariées par rapport à leurs conditions d'existence. Si maintenant, même les retraités qui ne sont très loin d'être la population le plus à risque de pauvreté aujourd'hui, se rebelle, il me semble effectivement qu'il y a urgence à prendre vraiment conscience de l'intensité des frustrations sociales qui existent aujourd'hui et à répondre à ces frustrations extrêmes. Il s'agit de la nécessité d'une relance civilisationnelle et d'un retour à une question centrale qui a été portée par Victor Hugo, le travail fier, mais dur, mais surtout le travail dont le salaire net rapporte. Nous sommes dans une situation où de nombreux jeunes aujourd'hui constatent l'existence de l'invention du travail gratuit dans un grand nombre de secteurs de l'activité humaine. Ces jeunes affamés, les jeunes générations que nous voyons poindre au sein des classes moyennes supérieures, classe moyenne supérieure du point de vue du diplôme, classe paupérisée du point de vue du revenu, nous amène aujourd'hui en France à nous interroger sur le réinvestissement dans l'ordre public et la sécurité publique comme grande urgence. Je pense surtout qu'il est important de réinvestir dans une forme de refondation nationale. Nous avons ici, dans ce pays, un besoin urgent de réorientation, notamment économique, mais aussi de valeur, de façon à ce que le travail Merci. Jeune d'aujourd'hui soit de nouveau possible dans ce pays.
François Dubès était en mars 2019. Louis Chauvel, vous avez peut-être reconnu sa voix, qui est spécialiste des classes moyennes, qui s'adressait à Emmanuel Macron, qui était face aux intellectuels dans ce fameux grand débat national. Il parle de frustration sociale et il appelle à une relance civilisationnelle. Alors, je ne sais pas si on peut reprendre ces mots, mais effectivement, il appelle le politique à prendre des responsabilités devant ces frustrations qui montent, devant surtout des jeunes qui, en s'exprimant, disent qu'ils savent qu'ils ne vivront pas mieux et peut-être sûrement moins bien que leurs parents, qu'ils n'auront plus de CDI, qu'ils n'auront probablement pas de retraite. C'est une vraie crise de civilisation. Alors on dit un monde qui meurt, un monde qui tarde à naître. On a déjà entendu en histoire politique ce genre d'expression.
Et les monstres qui vont avec.
Et voilà, les monstres vont avec, les monstres sont là et ils dévorent la société française. C'est aussi une responsabilité des politiques. Alors je sais que vous n'aimez pas le terme néolibéralisme qui est employé à tort et à travers, mais en fait, au bout du compte, quand on a fait ce statut-là, ce constat, et on est tous à peu près d'accord sur le constat, on dit, la faute à qui ? Au néolibéralisme ?
Alors, j'ai un peu de nuance par rapport aux analyses de Louis Chauvel, parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est moins le déclassement que la hantise du déclassement. C'est-à-dire, quand on regarde les chiffres, on est dans une situation très paradoxale. La plupart des enfants n'occuperont pas la position de leurs parents. Donc, on n'est plus dans le monde de la certitude. Mon père est sidérurgiste, je serai sidérurgiste. Mes parents sont instituteurs, je serai instituteur. C'est fini. Mais en même temps, on est dans une société assez bloquée. C'est-à-dire que tout le monde a peur de ne pas avoir sa position, tout en sachant qu'on ne montera pas très haut. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de déclassement de masse, mais psychologiquement, on a perdu les certitudes de la vieille société, tout en n'ayant pas les voluptés supposées de la nouvelle dans laquelle chacun, en fonction de son mérite, pourrait gagner. Donc, il y a quelque chose comme un double bind qui rend extrêmement nerveux. D'autre part, ce mécanisme accroît la compétition individuelle. Moi, je vois dans le monde scolaire, tout le monde est très favorable à l'égalité, mais dès qu'il y a une réforme égalitaire, tout le monde est contre, parce que chacun a bien compris qu'il fallait optimiser la réussite scolaire de ses propres enfants, parce que la valeur d'un diplôme, c'est sa rareté. Donc, il y a une forme de crise extrêmement profonde. Alors, quelle est la responsabilité des politiques? Il y a un récit que j'ai tenu quand j'étais jeune, c'était la trahison continue des staliniens et des sociaux-démocrates. Bon, voilà. Ce récit continue, mais on pourrait se demander aussi pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ce discours s'est cassé, pourquoi aujourd'hui un discours de gauche des années 70, quand vous vous intéressiez au programme commun de la gauche, apparaît comme encore plus vieux que Victor Hugo. Enfin, tout ça a à peu près disparu. Et donc, je crois qu'il y a des responsabilités politiques, mais je pense qu'il faut mesurer l'ampleur des transformations de la vie sociale, ce qui fait que les politiques bégayent, les politiques parlent dans le vide. Enfin, c'est devenu inaudible, et pas simplement pour moi, pour la plupart des gens, ça n'a plus véritablement de sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'en sais rien. Moi, j'ai une relative confiance dans la vie sociale telle qu'on l'observe par le bas. C'est-à-dire qu'en France, on a toujours été convaincu que seul l'État peut nous sauver, les grands programmes politiques peuvent nous sauver, les grandes ruptures, on a tous appris ça à l'école, enfin, 89, 48, 36, bon, voilà. Mais peut-être qu'aujourd'hui, quand on regarde la vie politique telle qu'elle se déploie au niveau des communes, des régions, eh bien, il y a plus de dynamisme qu'on ne l'imagine, il y a plus de générosité qu'on ne l'imagine, les tensions interculturelles sont bien plus faibles qu'on le suppose, etc. Et dès que vous montez dans l'espace politique central, vous avez une sorte d'hystérisation du débat, qui fait d'ailleurs que, là, vous le savez, toutes les enquêtes montrent qu'en France, il y a ce paradoxe très étonnant. Quand vous demandez aux gens « est-ce que la société française va bien ?», 95% vous dit « c'est épouvantable, l'avenir est désastreux ». Et quand on leur dit « est-ce que vous allez bien ?», ben 60% disent « moi, ça va plutôt pas mal ». Il y a une disjonction, c'est ça qui me frappe, entre, d'une certaine manière, mon expérience personnelle et la manière dont je vis la vie sociale et politique. Et tout l'enjeu, c'est de réconcilier ça. Je crois quand même qu'il faut plus faire confiance à la société, plus faire confiance aux citoyens, plus faire confiance à la vie associative qu'on ne le fait. Donc, je pense que il faudrait peut-être qu'on reconstruise une vie sociale et politique aujourd'hui par le bas, plutôt que de refaire essentiellement et sans cesse les mêmes programmes auxquels d'ailleurs personne ne croit. Pourquoi la gauche est allée si mal? Parce que vous le savez mieux que moi, pendant 20 ans, la gauche a tenu des discours d'un certain type pour gagner des élections, en disant une fois qu'on est au pouvoir, comme le monde n'est pas exactement comme on avait supposé qu'il est, eh bien on fera ce qu'on peut, et généralement, ça s'est pas bien passé. Bon. Eh bien, je crois qu'il faut sortir un peu de cette affaire-là et retrouver une forme d'optimisme dans la vie sociale, je dirais, élémentaire. Il faut devenir un peu plus démocrate et un peu moins républicain, si je peux me permettre.
Voilà. Oui, c'est dure tâche, mais puisqu'on a parlé de nostalgie avec vous, François Dubé, on va écouter un extrait de discours politique qui date, mon Dieu, oui, pas mal, de 1988, mais qui, à l'époque, pouvait manifester un certain collectif vu du niveau politique.
Le respect des uns pour les autres est à la base du pacte hors duquel la communauté nationale perdrait son véritable sens. Mais une France injuste est une France divisée. Une France refermée sur elle-même et sur ses divisions est ou serait inapte à gagner les enjeux qui l'attendent dans l'arène du monde, plus encore dans l'Europe sans frontières de demain. C'est pourquoi je ne sépare pas le devoir politique d'ouverture de l'obligation sociale de solidarité, ni l'obligation de solidarité de l'esprit d'entreprise, l'esprit d'initiative dont nous avons plus que jamais besoin. Démocratiser la société, refuser l'exclusion, rechercher l'égalité des chances, instruire la jeunesse, la former aux métiers et aux techniques qui lui apporteront la sécurité de l'emploi dans des entreprises elles-mêmes modernisées, accroître le savoir, servir la création de l'esprit et des mains, guérir la vie quotidienne du plus grand nombre des Français de ses multiples tares et parfois de ses intolérables servitudes, priorité au dialogue, ici et là-bas, à l'autre bout de la planète. Voilà le chemin qu'il faut prendre, le rendez-vous auquel je vous convie. Si l'on veut que le principe espérance triomphe des pulsions de la peur et de l'affrontement.
François Dubet, plus facile à dire qu'à faire, on s'en est rendu compte. Mais est-ce que vous pensez qu'un certain type de discours politique est aussi nécessaire? Alors, sans remonter au roi thaumaturge, hein, mais est-ce que ce genre de façon de s'adresser à son peuple, comme le disait tout à l'heure cette dame gilet jaune, en lui parlant correctement et en l'invitant à se dépasser et à dépasser ses passions tristes, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose, tout simplement, qui manque à la société française?
Oui, c'est sans doute quelque chose qui manque, mais on voit bien aussi à quel point tout ce que dit ce discours, et qu'on ne peut pas ne pas partager, est bourré de contradictions. Il faut à la fois développer les entreprises, réduire les inégalités, il faut à la fois investir, faire des économies, entrer dans l'Europe et rester identique à soi-même. Donc tout ça n'est pas si simple. Le mot que je préfère dans ce discours, c'est le devoir d'espérance. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose là-dessus, c'est qu'on est dans une logique où l'idée même de monde meilleur a quasiment disparu. Et c'est très dangereux. Si vous considérez que le monde va aller de plus en plus mal, au fond, pourquoi se donner de la peine? Alors, ce qui s'est passé depuis 88, depuis ce discours, c'est qu'on ne peut pas dire que la France, que l'État français, que la protection sociale est reculée. C'est pas vrai. Je veux dire, les prélèvements sociaux sont très très élevés, la redistribution sociale est très très forte. Il faut rappeler quand même qu'en France, si vous prenez les inégalités avant redistribution entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, elles sont de l'ordre de 7. Après redistribution, elles sont de l'ordre de 4, même un peu moins de 4. Donc, ça marche. Mais tout le monde est convaincu que ça ne marche pas. Si vous voulez recréer un sentiment d'unité, il faut bien que tout le monde ait l'impression qu'il contribue et qu'il reçoit. Or, ce qui me frappe quand on fait des entretiens, c'est que les gens ont le sentiment de ne plus tellement percevoir comment on contribue et de ne pas tellement percevoir le lien entre la contribution et ce que l'on reçoit. Ce qui est une destruction de l'idée de contrat social absolument catastrophique.
Eh bien, François Dubet, merci en tout cas d'être venu en parler avec nous. Je ne sais pas si on aura fait avancer beaucoup le débat qui est infini et qui pourra continuer encore quelque temps dans ce climat social qui est celui de la France. Je rappelle que votre livre, très instructif pour au moins comprendre les fondements des colères, s'appelle « Le temps des passions tristes, inégalités et populisme » et qu'il est paru aux éditions du Seuil. Merci à vous. Au revoir.
Merci.
Nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20 et bien sûr après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.